Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien à l'écoute du Live In Room sur les ondes du 93.3. Comme chaque jeudi, eh bien, c'est un groupe local qui est mis à l'honneur. Mais ce soir, eh bien, le changement c'est maintenant. En effet, on ne reçoit pas de musiciens, mais bien des gens du théâtre. Nous avons l'honneur d'accueillir les Pédoncules Égarés. Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Oh, c'est beau. Vous êtes venus donc en force, vous êtes tous là autour de la table pour nous présenter une pièce et puis votre troupe peut-être. Alors on va faire un petit tour de présentation et puis si vous pouvez nous présenter les Pédoncules Égarés en quelques mots, ce serait chouette.
Alors qui attaque ?
Par qui on commence ?
La metteur en scène peut-être ?
Les co-metteurs. Nous sommes deux metteurs en scène, Luna Berlier et moi, Jeanne Gervasi. Les Pédoncules Égarés, en fait, c'est vraiment un collectif qui s'est créé pour ce projet, puisque ça vient de l'idée de Luna, qui fait partie de l'association des naturalistes d'Auvergne, dont nos trois amis Vincent.
Oui, donc moi, c'est Vincent Michel, donc je suis en... voilà, merci, bonsoir.
Enchanté, Vincent.
C'est pas grave, on va couper, hein, t'inquiète pas.
Notre truite Maëlle.
Bonsoir.
Et Luna, donc.
La juge Hulotte.
Et
initiatrice du projet, du coup, sur la base du journal naturaliste La Hulotte.
Elle est donc référente au théâtre dans l'association des naturalistes d'Auvergne, car ce projet a été à son initiative et normalement pour la semaine de l'environnement, où nous avons déjà fait une avant-première.
On a joué pour la première fois à Lyotopie pendant la semaine de l'environnement.
Ok, du coup, les Pédoncules Égarés, ça a combien de temps et surtout, qu'est-ce que c'est que ce nom complètement abracadabrantesque?
Alors, ça date juste de l'année, vraiment. Cette troupe, elle est très récente. Ça fait un moment que je traînais l'idée dans ma tête, mais j'ai osé la présenter au président de l'ADNA qu'au début de cette année scolaire, en fait.
Antoine Vernet,
voilà, merci Vincent. qui a accepté tout de suite. J'étais surprise de son enthousiasme, mais du coup, on a eu beaucoup de mal à rassembler les comédiens, mais du coup, les Pédoncules Égarés sont nés un peu plus tard, vraiment. Le nom de la troupe, en fait, c'est Caroline qui l'a trouvé. C'est une comédienne qui n'est plus avec nous parce qu'elle a eu des graves soucis de santé, mais c'est elle qui a eu l'idée de base et on a fait voter tout le monde, tous les comédiens, pour choisir le nom et c'est les Pédoncules Égarés qui est ressorti.
Puisque nous sommes des petits pédoncules, des petits morceaux.
Voilà. Des petits morceaux qui relient le fruit à la branche.
Au moins, ça marque les esprits comme nom. Et t'as parlé du journal La Hulotte. D'où est tiré le texte que vous allez jouer, c'est ça?
Exact.
Est-ce que tu peux nous expliquer un peu?
Je peux me permettre, s'il vous plaît, le pédoncule, c'est la fleur. Pas le fruit. Pédoncule, c'est ce qui...
Le chêne pédonculé, c'est celui du gland.
Vous n'avez pas dit le chêne, là. Ça veut dire les pédoncules. Là,
oui, on parle des pédoncules. Mais justement, le chêne pédonculé, c'est celui qui a un pédoncule. C'est entre le gland et la branche.
Et donc, l'ailotte.
Bon, ça.
Les contestations. La juge Hulotte implacable. Donc en fait, le journal La Hulotte, c'est un... Bon, comme son éditeur le dit lui-même, c'est un irrégulomadaire. Il paraît en général à peu près tous les 6 mois. Et c'est Pierre Déon qui s'occupe donc quasiment exclusivement de la rédaction, la documentation et le dessin à la plume. Et personnellement, on a adapté tous ensemble, en pièce de théâtre, un article sur le double numéro sur l'épicéa. Et alors à la base, c'est un article de théâtre qui est rédigé à peu près comme un article de journal qui est rédigé comme une pièce de théâtre. Et je me suis toujours dit que ce serait cool à mettre sur une scène. En l'occurrence, là, j'ai trouvé des comédiens parfaits. Et donc, du coup... vous habituez pas. Donc, du coup, je me suis dit que j'allais commencer et on a dû enlever 2 ou 3 personnages minuscules, des petits rôles, mais on a gardé l'essentiel. Mais du coup, le texte, c'est de Pierre Déon.
Il y a aussi un objectif de sensibilisation, c'est-à-dire que c'est quand même basé sur des informations scientifiques, sur des problèmes écologiques, et c'est ça aussi qu'on voulait véhiculer à travers cette pièce.
Et du coup, ce monsieur, Pierre Déon a participé à la réalisation de la pièce, ou alors
il a été mis au courant, mais il n'a pas participé activement, on lui a demandé l'autorisation.
Et il l'a déjà vu?
Non, il ne l'a pas vu. Malheureusement, Journal La Hulotte est parti des Ardennes, en fait. Donc, il vit dans les Ardennes et il n'a pas fait le trajet pour venir nous voir.
C'est vrai qu'on ne lui a pas dit non plus, mais on pourrait lui parler de cette diffusion à Radio Campus, ouais, si ça l'intéresse, de l'écouter en podcast. Petite dédicace à Pierre Déon.
Ouais, c'est clair.
Merci à vous.
Est-ce que vous pouvez nous parler de la pièce, justement, ce qu'elle raconte sans trop en dire, parce que vous allez la jouer dans quelques instants, mais un peu résumer l'histoire de
ce... À ton tour, Vincent.
Bon, du coup, comme j'ai déjà dit, le journal La Hulotte parle de, enfin, est un journal de science quand même, très vulgarisé, qui explique beaucoup de choses sur ton humour, mais l'objectif, la profondeur du journal est de véhiculer des messages. Je vais pas recommencer parce que je dis n'importe quoi.
Par juste du procès de l'épicéa.
Voilà, donc le procès de l'épicéa a été créé à la base pour sensibiliser le public à des problématiques écologiques, en l'occurrence ici, l'abondance d'épicéa qui est plantée en masse par les humains.
Depuis les années 60,
en monoculture.
60, hein, au moins. Et du coup, beaucoup d'animaux de la forêt viennent se plaindre, ou au contraire, faire l'éloge de l'épicéa et en fonction de ses conséquences écologiques.
Donc on essaye vraiment de rendre ce procès scientifique de manière très ludique en jouant nous-mêmes les animaux.
Parce que du coup, la plantation massive d'épicéa a entraîné des problèmes écologiques.
Vous allez comprendre ça.
Vous allez savoir prendre la pièce. Mais sachez que de manière générale, c'est jamais une bonne idée de planter un arbre ou une plante en monoculture.
Ah oui, puis le faire envahir les espaces.
Ça détruit l'écosystème, voilà. Puisqu'il n'y a plus du tout de variété.
Et les animaux, ils sont pas contents.
Pas contents.
On ne veut pas spoiler.
Elle en sait quelque chose.
Alors d'habitude vous jouez vous avez fait une première au Lieutopie et vous jouez cette pièce en public. Là vous allez la jouer à la radio. Comment vous avez travaillé ça pour justement rendre la pièce radiophonique?
On a beaucoup joué sur les bruitages. On a essayé un petit peu tout ce qu'on avait autour de nous pour donner une ambiance de la forêt, pour vous immerger. Vous public dans cette forêt, et pour faire en sorte que même si c'est très humanisé dans la manière de jouer, qu'on sente quand même qu'on est au milieu d'un procès naturel, un procès fait par des animaux.
Un arbre, c'est quand même spécial.
Mais il faut de l'imagination quand même.
Et vous êtes venu avec quelques instruments du coup pour rendre tout ça. Est-ce qu'on peut en citer quelques-uns? Et puis 2-3 objets, on peut voir du lierre ou des choses comme ça.
On a une sorte de space drum,
un bâton de pluie,
des maracas, on a la guitare de Maëlle,
un téléphone.
Et c'est pas l'instrument, ça, c'est un objet.
Un ocarina aussi.
Le téléphone à l'ancienne à cadran, vous voyez.
Une petite percussion fait avec un pot de terre et du papier journal. Oui, oui.
Et du lierre.
C'est artisanal.
À retrouver dans tous les bons centres aérés, bien sûr.
Exactement. Pas les vrais, hein, je vous rassure.
Dans le pot.
Je l'ai fait à l'école primaire.
Waouh.
Et puis il y a le maillet du juge, quand même, qui est.
Voilà.
Ah oui.
C'est un accessoire intégrant de la pièce.
Essentiel. Un accessoire essentiel.
Et est-ce qu'on a une dernière question?
Ah oui, un parapluie aussi.
voilà.
Un parapluie, voilà. Cette circonstance.
Et alors, est-ce que c'est un projet que vous voulez poursuivre l'année prochaine? Enfin, comme la troupe est toute récente, est-ce que vous voulez remettre ça l'année prochaine?
Eh bien, malheureusement, moi, l'année prochaine, je risque de ne plus être sur Clermont.
Oh.
Ah,
Luna. Celle qui a quand même lancé le projet. Et puis moi non plus.
Jeanne non plus, d'ailleurs.
Je serai à Manchester.
Et donc concrètement, s'il n'y a pas les metteurs en scène, ça risque d'être compliqué.
Voilà. Donc vous pouvez essayer de continuer sans nous, hein, de nous remplacer.
Ah, avec plaisir.
Voilà, les pièces dures de l'épicéa, de la Dena. J'ai aucun doute, vous pouvez prendre le flambeau.
Parce que vous êtes rencontrés comment, en fait? Du coup, tu disais que ça avait été commencé en cours d'année. T'as fait quoi? Un appel à projet? Enfin, t'as lancé un appel à candidat?
Oui, en fait, j'ai lancé un appel à candidat dans le cercle fermé à la base de la DNA. Donc, c'est là que j'ai récolté Vincent et Maëlle, que je connaissais déjà de longue main. Et je me doutais que... Enfin, je savais que ça allait être des bons comédiens à la base, donc je leur ai demandé, en fait, vraiment activement. Et après, j'en ai parlé à Jeanne, que je connaissais en tant que comédienne, et c'est elle qui m'a parlé de Clément.
Coucou.
Qui n'a pas parlé depuis le...
Ça va.
Bonjour Clément.
Clément fait partie de Cinéfac, voilà.
Oui. Qui fait le cerf.
Voilà. Et le ministre.
Et le ministre.
Et le meilleur chanteur.
Est-ce que... comment on fait pour vous retrouver? Ah bah, du coup... Ah oui, c'est l'année prochaine. Est-ce qu'il y a quand même une façon de continuer ça sur Internet ou est-ce qu'on va pouvoir retrouver déjà ce que vous avez fait, ce que vous allez faire
On peut le retrouver sur le site de la DNA probablement et Jeanne nous a même concocté un site
qui n'est pas encore en ligne pour
les pédoncules égarés, qui n'est pas encore
mais
en ligne.
Mais qui est prêt et dès que l'enregistrement sera terminé, on mettra un lien direct pour ce petit enregistrement.
J'avais une petite dernière question pour les auditeurs qui seraient intéressés de lire le journal La Hulotte. Il se trouve où ? Est-ce qu'il paraît en kiosque ou pas ?
Non, il est disponible uniquement sur abonnement. Mais certaines bibliothèques ou médiathèques le proposent.
D'accord. Il faut se renseigner.
Mais ils ont aussi un site qui est très bien fait où il y a aussi par exemple des photos naturalistes pour identification ou des photos d'arbres avec des têtes bizarres. Enfin, ils ont énormément de réseaux.
Et sur notre site, il y a un lien vers le site La Hulotte.
Et oui, parce qu'on fait bien les choses.
Ça marche, on va vous laisser vous concentrer, sonner les 7 coups de bâton, c'est ça ? Non, c'est comme ça au théâtre ?
9, il y en a 9.
9, 7, enfin bon, un certain nombre.
9 en premier rapide et puis les 3.
Donc,
les 3 derniers.
Ah, c'est ok, c'est 9 et 3.
Voilà, les 9 muses et les 3 grâces.
Eh bien, on va laisser les 9 muses et les 3 grâces se faire et puis vous laisser libre cours à votre pièce.
Et à votre imagination.
Oui, votre imagination aussi et la nôtre. Vous êtes bien à l'écoute du 93.3, Live in Room un peu particulier. Aujourd'hui, on écoute une pièce de théâtre. Les pédoncules égarés vous présentent le procès de l'épicéa.
J'avais laissé des affaires.
Ah non, j'ai soif.
J'ai excusez-moi,
s'il vous plaît.
Oh,
s'il vous
plaît.
Viens par ici.
Ah, bah, elle
n'a
pas maigri.
Assieds-toi, s'il te plaît.
Oh, mais je la juge,
j'en ai marre. Bon, alors, quand est-ce qu'elle arrive ?
Vous êtes venu là,
pourquoi, vous, monsieur ? Ah, moi, c'est pour m'occuper.
Je trouve que c'est une
maladie. D'accord.
Excusez-moi, il y a quelqu'un, je peux
savoir le procès de qui ?
Non, je
vais
j'ai un rendez-vous juste après.
Elle
traîne.
C'est qu'elle
ne sait rien. Pour combien de temps ?
Ce n'est pas elle. Je ne sais pas.
Oh, j'en ai marre.
Qui arrive ?
Pardon.
C'est elle ?
Je vois qu'elle est là. Ah oui.
C'est une caractéristique.
Je vous ai dit.
Arrête.
Mais maman. Nous avons notre cerf. Nous avons la bactérie qui est arrivée. Nous avons le hérisson. Nous avons le moineau. Oh, mais je crois qu'il me manque le ministre. On va le rappeler.
Ministère des animaux. Ne quittez pas, une opératrice va vous répondre. Ne quittez pas, une opératrice va vous répondre. Ne quittez pas, une opératrice va vous répondre. Ne quittez pas, une opératrice va peut-être vous répondre.
Allô, ici Noé.
Ici juge Hulotte.
Mais qu'est-ce que vous voulez ?
Pour le procès.
J'ai d'autres chat à fouetter.
Vous avez invité, monsieur?
Pouvez-vous me déranger?
On a besoin de vous.
C'est quoi ces salades?
C'est le procès de l'épicéa.
Un éléphant malade.
Mais non, on a un épicéa qui...
Je suis très occupé.
On en avait déjà parlé.
Une seconde, patientez. Je n'ai pas le temps, vous savez, car j'ai un déjeuner. Après, je serai parti. Que j'aille au parti. Des promesses à promettre, je tiendrai peut-être. Je peux pas vous écouter. Je suis overbooké. Écrivez-moi un mot, on vous rappelle bien.
Le procès va commencer.
Le bon service. Je vous repasse l'impératrice.
Tant pis, nous n'aurons pas, monsieur le ministre.
Oh, quel culot quand même.
Vous deux, allez me chercher l'accusé.
Très bien.
C'est lui le cerf?
Oh, mais... Enfin, mais laissez-moi!
Allez, viens là.
Vous, là, franchement, erreur sur la personne. Enfin, voyons, c'est sympa, blanc.
Mais, allez,
vous
bouge, t'es
si là. Alors, c'est...
Vous êtes monsieur Picéa Abies, c'est ça?
Oui, oui, madame la juge.
Mm-hmm. Très bien. Attachez-le là, s'il vous plaît.
Un peu moins fort, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous serrez fort?
Il est vraiment laid. J'espère qu'il sera jugé.
La Cour suprême des forêts de France est aujourd'hui réunie pour se prononcer sur le cas du sieur Picéa Abies, qui se fait également appeler Épicéa, Pès ou Sapin Rouge, lequel individu est accusé des graves délits suivants. Atteinte à la sûreté des équilibres naturels. Expulsion arbitraire d'espèces animales et végétales sans préavis ni indemnité. Injure grave envers l'harmonie des paysages.
Alors ça, c'est tout relatif.
Tentative d'empoisonnement en règle, avec récidive. Et... Occupation illégale de terrains dérobés à autrui.
Ah, ça c'est vrai. Ah, quand même. Bien vrai.
Messieurs les plaignants sont invités à faire état de leur doléance à l'égard du prévenu, en bon ordre et sans se bousculer. L'accusé pourra se défendre point par point et expliquer son affaire en toute liberté. Je déclare la séance ouverte. Quel est le premier plaignant?
Madame la Présidente, je demande la parole.
La parole est au cerf.
Madame la Présidente, messieurs les députés, messieurs les jurés, mes chers amis, j'ai de très graves accusations à porter contre l'épicéa. Pour être sûr de ne rien oublier, je les ai notées là. Sur ce parchemin. Et j'ai fait contre-signer tout ça par 6 de mes collègues. Le chevreuil, le sanglier, le lapin de Garenne, le lièvre, le mulot et le rat des bois.
Et qu'est-ce que tous ces animaux ont à voir avec vous?
Ce sont les autres adhérents du syndicat unifié des herbivores sylvestres, madame la présidente.
Syndicat unifié des herbivores sylvestres. Syndicat unifié des herbivores sylvestres.
Ouais. Bon.
Ouais.
Allez. Dans ce cas, c'est parfait. Remettez votre parchemin au greffier. Nous allons le classer dans le dossier.
Je vous remercie.
Pouvez-vous à présent nous préciser vos accusations contre le prévenu?
C'est bien simple, madame la présidente. Ce sinistre personnage a essayé de m'assassiner.
Que dites-vous? Expliquez-vous.
Au moins, oui.
Expliquez-vous, enfin.
C'est la vérité. L'épicéa a purement et simplement tenté de me faire mourir de faim en me coupant les vivres. Mais avant de vous raconter l'affaire... Permettez-moi un petit retour en arrière, madame la présidente. Il y a quelques années, avant qu'on nous plante partout ces satanés sapins.
Halte-là,
s'il vous plaît.
Je vous arrête. Nous n'avons pas aujourd'hui à nous occuper du cas des sapins, mais de celui des épicéas. C'est tout à fait différent.
Oui, pas d'amalgame, s'il vous plaît, hein.
Façon de parler, madame la présidente. Vous savez bien qu'ici, tout le monde a pris pour habitude d'appeler des épicéas des sapins. Et puis, de toute façon, au point de vue des conséquences écologiques, je m'excuse de vous dire, sauf votre respect, c'est de la scarlat, c'est blanc bonnet et vert chou. Donc, je reprends mon histoire. Avant, disais-je, qu'on ne nous plante partout ces maudits épicéas. Nous avions ici, je m'en souviens fort bien, une superbe forêt faite de chênes, de hêtres, de charmes et d'autres espèces feuillues très variées dont personne ne songeait à se plaindre. Vous savez ce qui s'est passé ensuite? Les bûcherons en ont jeté la moitié par terre et l'ont remplacé par des résineux. Et le plus culotté de l'histoire, c'est que cela s'est fait sans qu'aucun de nous n'ait été consulté.
Oh, c'est bien prête.
Je tiens à le dire, car il est tout de même scandaleux que les gardes forestiers se permettent de modifier l'environnement sans faire au préalable la moindre enquête d'utilité publique auprès des animaux. On dirait bien que la politesse se perd.
Oh, oui, ouais. Le greffier prend note de votre plainte. Nous la transmettrons à qui de droit. Poursuivez.
Je vous remercie, et je poursuis ma triste histoire. Rappelez-vous le bon vieux temps. Les chaînes, les charmes, comme d'ailleurs tous les autres feuillus, avaient une ramure tellement peu serrée que la lumière passait largement au travers. Résultat, cela permettait à de très nombreuses plantes basses, fleurs, graminées, arbrisseaux et arbustes de tout poil, de pousser sous eux. Et nous autres, les herbivores, c'est de toutes ces plantes basses que nous nous nourrissions 12 mois sur 12. Et puis, il y avait les faines, les glands et tous les fruits de la forêt. Or, quelle ne fut pas notre surprise de constater, quelques années après seulement l'installation des épicéas, que toute la végétation herbacée avait complètement disparu, comme par enchantement. Et maintenant, vous pouvez venir visiter, madame la présidente. Il n'y a plus à terre que des aiguilles mortes à perte de vue. Plus trace du moindre brin d'herbe. Comme aucun d'entre nous n'a d'appétit particulier pour les aiguilles piquantes et coriaces de l'accusé, je proteste.
Vous n'avez pas la parole.
Nous avions le choix entre deux solutions. Ou bien mourir de faim sur place, ou alors déménager. Ce qui n'était pas si facile, car les endroits plantés en feuillus, ça ne court plus les rues de nos jours. Et quand on les trouve, c'est pour s'apercevoir qu'il y a déjà des propriétaires, et que ces derniers ne sont guère disposés à partager le peu de nourriture qu'il leur reste. Alors moi, j'appelle un chat, et je déclare solennellement que l'accusé s'est rendu coupable à notre égard des délits d'expulsion arbitraire et de tentative d'assassinat caractérisés.
Accusé, qu'avez-vous à répondre à ces deux graves accusations?
Enfin, mais que voulez-vous que je vous dise, moi? Que le cerf et ses amis étaient bien contents de trouver de jeunes plantations d'épicéas bien touffues où ils pouvaient se réfugier lorsque les chasseurs les harcelaient. Il s'est bien gardé de nous révéler ce détail-là, hein? Et puis, de toute façon, je devais tout de même pas me couper la moitié des branches. Faire plaisir au cerf!
Et pourquoi pas?
On ne vous en demande pas tant, cher monsieur. Mais justement, tenez, puisque vous venez de nous parler de vos aiguilles, j'aimerais entendre le témoin suivant. Faites donc entrer la représentante de l'intersyndicale des bactéries.
Ah, oui.
Elle n'est pas là?
Je suis là.
Elle n'est pas arrivée encore?
Où est la bactérie? S'il vous plaît.
Oh, excusez-moi, je vous avais pas vu. Vous voulez un micro, peut-être?
Oui, s'il vous plaît.
Voilà, qu'on apporte un micro, s'il vous plaît.
Ah, merci.
Ah, c'est mieux.
Je préfère.
Très bien.
Bonjour, madame la présidente.
Bonjour.
Monsieur le PCA.
Madame, avant de nous exposer vos griefs contre les PCA, j'aimerais que vous nous expliquiez en quoi consiste votre métier exactement.
Eh bien, je travaille comme ouvrière spécialisée dans une chaîne de recyclage des déchets forestiers.
Ça n'a pas l'air simple comme histoire. Vous pouvez nous l'expliquer un peu plus clairement?
Mais si, c'est très simple. Vous voyez, il y a toutes sortes de déchets qui tombent continuellement sur le sol des forêts, comme des branches, des feuilles, des fruits. Ils sont digérés par des petits animaux et puis décortiqués par nous, les petites bactéries, qui en refont du terreau pour l'offrir aux plantes et aux arbres pour qu'ils passent leurs branches, leurs feuilles et leurs délicieux fruits.
Ah, j'ai compris. Vous venez accuser les PCA de vous réduire en quelque sorte au chômage, puisque c'est bien connu. Ces gens-là ont pris la détestable habitude de ne jamais laisser tomber leurs aiguilles.
Ah non. Eh bien, pas du tout, madame la présidente. Sans vouloir vous vexer, hein. Je relève une très grosse erreur dans ce que vous venez de dire. Bon. Contrairement à ce que croient beaucoup de mes confrères animaux, au lieu de tomber les aiguilles tombent très souvent sur le sol des forêts. Oui, très souvent. Seulement, au lieu de vivre quelques mois et de tomber à l'automne, comme par exemple les feuilles de noisetier, oui, monsieur l'écureuil, eh bien celles-ci restent 6 à 7 ans sur leurs branches avant de tomber. C'est pour ça qu'il y a tout de même beaucoup d'aiguilles de pin à terre.
Mais alors, si les épicéas vous fournissent du travail comme tous les autres arbres, que diable leur reprochez-vous au juste?
Ce que je leur reproche, c'est bien simple. Leurs aiguilles sont beaucoup trop difficiles à manger. Il paraît que ça vient de la lignine, cette résine-là qu'elles contiennent.
Non, évidemment que c'est la lignine. Non, la lignine, c'est la molécule qui me permet de rester tout dur. Enfin, tout droit, comme la plupart des végétaux d'ailleurs.
Oui, enfin, reste qu'elle est très difficile à manger pour nous. Et puis, nous n'arrivons jamais à bout. Alors qu'une feuille de noisetier est décomposée en quelques mois, il faut pas moins de 5 à 7 ans de travail assidu pour venir à bout d'une aiguille de pin. Une! Et ça a des conséquences importantes. Les aiguilles non décomposées s'accumulent et s'accumulent en formant au pied des arbres une litière de plus en plus épaisse. Ah oui. Et puis, au bout d'un certain temps, cet épais matelas d'aiguilles mortes en attente est attaqué par de minuscules champignons qui se changent lentement en une sorte d'humus noir, très mal décomposé et fortement acide. Et vous savez bien, Madame la Présidente, que nous, les bactéries, nous refusons catégoriquement de nous développer en milieu acide. Oh non, c'est dégoûtant, oh là là. Et puis, la démission en masse de mes confesseurs bactéries n'est pas faite pour arranger l'affaire. Je les soutiens, mais la décomposition des aiguilles se fait de plus en plus lentement. Et pendant ce temps, les arbres comme vous, monsieur l'épicéa, ne cessent de grandir et de laisser tomber de plus en plus de litière. Vous me suivez toujours ?
Oh, je pense bien.
J'en arrive à la conclusion, ne vous inquiétez pas. Plusieurs savants prétendent que, dans certaines régions, sur certaines terres particulièrement sensibles, et pas partout, j'insiste bien, ce processus pourrait aboutir à une véritable stérilisation des sols.
Oh. Oui.
Autrement dit, après plusieurs générations d'épicéas, rien d'autre ne pourrait pousser derrière eux. La terre serait morte.
Oh, morte.
Madame la Présidente, je proteste. Cette bactérie raconte n'importe quoi. C'est bien trop facile de jouer les voyantes extra-lucides pour faire peur aux gens. Peut-elle me citer un seul exemple où une forêt d'épicéas est stérilisée le sol, comme elle le prétend?
Bah, bien sûr que non. Mais nous pouvons cependant exprimer certaines craintes émises par d'éminents écologistes. Ah oui, d'éminents écologistes, hein. Et puis ce ne serait pas la première fois que l'on verrait un semi-désert succéder à une forêt. Comme, par exemple, en Bretagne. Nous nous rappelons de tous ces magnifiques hectares couverts d'arbres et qui sont maintenant retournés à l'état de landes.
Je vous remercie pour cette intéressante prédiction. La parole est à présent à la truite.
Bonjour, Madame la Présidente. Eh bien, cela pourrait peut-être sembler bizarre à certains, mais moi aussi, j'ai énormément à me plaindre de l'épicéa. Et bien entendu, je ne parle pas seulement mon nom propre. C'est l'avis de tous les poissons, mollusques, insectes et habitants des eaux douces. Mes chers collègues, depuis que ces satanés épicéas ont été implantés en masse dans nos ruisseaux, il s'en est suivi une suite ininterrompue de calamités. Premièrement, le niveau de l'eau a baissé, tout le monde a pu s'en apercevoir, surtout cet été au moment de la grande sécheresse.
Oui, oui.
Nous avons même cru à un moment que nous allons tous mourir asphyxiés. Tous asphyxiés.
Non mais... Ça alors, franchement c'était fantastique, c'est ainsi moi, un arbre que vous accusez de faire baisser le niveau de l'eau.
Parfaitement, monsieur.
Ça alors, franchement, c'est extraordinaire. Il n'y aura bientôt plus une seule patte cassée dans cette forêt, dont je ne serai aussitôt tenu pour responsable. En tout cas, je me demande bien comment vous allez faire pour m'expliquer ce miracle-là.
Oh, mais je vais vous l'expliquer, monsieur. Ce n'est pas la peine de faire de l'ironie. Voici l'affaire de A jusqu'à Z.
Jusqu'à Z.
Pour commencer, au moment des grandes pluies d'automne et d'hiver, celles qui ralimentent les nappes souterraines, une grande partie de l'eau a été retenue par le feuillage très dense des résineux. Chose qui n'arrivait pas dans nos vieilles forêts, presque entièrement privées de leurs feuilles à cette époque de l'année.
Ça, c'est vrai, ça.
Oui, vous n'avez rien à dire. Vous n'avez rien à dire.
La suite, enfin, évidemment.
Dans l'intervalle, elle s'évapore. Autant de perdus pour les sources et pour les ruisseaux que ces dernières alimentent. Comme si cela n'était pas suffisant, l'épicéa célèbre pour sa croissance rapide et naturellement un grand buveur.
Alcoolique.
Un grand buveur d'eau, bien évidemment, monsieur le hérisson. Enfin bref, tout ça pour dire que ce monsieur se permet de puiser comme un goinfre dans la nappe phréatique qu'il a pourtant, pour sa part, si peu contribué à alimenter. Bien sûr, tout cela ne serait pas si grave s'il n'y avait que quelques parcelles d'épicéas dans la forêt.
Oh, mais nous ne sommes tout de même pas si nombreux.
Tout de même pas si nombreux? Savez-vous que chaque année, les hommes en résine à tour de bras des dizaines et des dizaines d'hectares?
C'est en effet très grave. Accusé, qu'avez-vous à répondre?
Écoutez, si on va me faire mourir de soif... Mais qu'on me le dise tout de suite!
Il ne s'agit pas de cela!
Ce n'est pas fini, madame la juge! Pour ne rien arranger, les hommes ont eu des stupides de planter des résineux jusqu'au bord des ruisseaux. Le résultat ne s'est pas fait attendre. En raison de l'ombre portée par les branches, l'eau s'est retrouvée dans une semi-obscurité permanente! Si bien que toutes les plantes aquatiques sont mortes! Toutes les plantes!
À supposer que cela soit vrai, qu'est-ce que cela peut bien vous faire à vous? Une truite? Vous n'êtes pas une plante aquatique que je sache.
Pas une plante aquatique? Mais monsieur l'ignorant, apprenez que les plantes aquatiques sont indispensables à la vie des poissons. Elles leur permettent de s'alimenter, de se nourrir et de s'abriter. Elles servent à des millions d'êtres vivants qui disparaissent en même temps qu'elles.
Vous avez raison. Lâchez l'accusé, s'il vous plaît. Laissez-le respirer.
S'il vous plaît.
Oui, retournez à la barre. Vous avez raison, mais gardez votre sang-froid. Vous êtes un poisson, que diable!
C'est vrai, madame la juge, je l'avais oublié. Mais par pitié, dites à cette épicéa qu'il cesse de m'échauffer les ouïes. J'en termine à présent avec le récit de nos malheurs. Certains complices de l'accusé ayant, comme je l'ai dit, des branches qui surplombent la rivière, ils y laissent négligemment tomber leurs aiguilles par milliers. Ce qui a pour effet d'acidifier l'eau de façon insupportable. En résumé, j'accuse le prévenu et ses complices d'avoir fait de tous nos petits ruisseaux de véritables déserts. Et je demande, avec force, la suppression immédiate de tous ces arbres nuisibles.
Ah oui,
merci.
Oui. À bas les PCA ! On lui coupe les branches !
Je vous remercie. Il n'y a plus de témoins à charge ? Non ? Bon. Nous allons donc entendre le témoin cité par la défense. Veuillez faire entrer le moineau de Paris. Alors comme ça, monsieur le moineau, on raconte que vous avez fait le voyage depuis la capitale, rien que pour venir défendre l'épicéa ?
Ouais, madame.
Eh bien, je vous félicite pour votre vaillance, car je sais qu'en temps normal, vous n'êtes guère d'un naturel migrateur. Qu'avez-vous à nous dire ?
Bah voilà. En tant que moineau, je travaille dans une ville qui a plutôt tendance à déguster question pollution. Si vous savez toujours pas ce que c'est que des fumées d'usine, des gaz de voiture, des oxydes de carbone et tout ce qui s'ensuit, vous avez qu'à faire une petite virée à Paris. Après ça, je crois qu'il n'y aura plus besoin de nous faire un dessin. Alors moi, je suis pas autrement qu'un autre. La pollution, c'est pas que ça m'amuse tellement. Et alors, quand j'entends qu'on est en train de replanter des sapins des Vosges... Oh, s'il vous plaît, des épicéas, hein ? Oui. Oui, des épicéas. Partout en France, moi, j'ai pas peur de le dire. Je suis pour à 100%.
Attendez une minute. Si je vous suis bien, vous êtes en train de nous dire que les épicéas absorbent le gaz carbonique de l'air et fabriquent de l'oxygène. C'est bien cela ?
Absolument.
Mais tous les arbres en font autant, cher ami. Y compris les arbres à feuilles caduques ?
Bah non, justement.
Comment ça, non ? C'est la première fois que j'entends une bêtise pareille.
C'est pas une bêtise, madame. L'épicéa des Vosges fabrique beaucoup plus d'oxygène qu'un arbre normal. Je m'en vais vous expliquer pourquoi. Ouvrez vos portugaises, primo. Il travaille toute l'année, et puisque lui, c'est au moins un avantage, il garde ses aiguilles en hiver. Et qu'il continue à marcher deux yeux haut, il a nettement plus de rendement qu'un arbre normal. Tenez, l'autre jour, j'étais perché sur une gouttière du muséum de Paris. Ouais, je vais au musée. Et j'ai entendu par hasard... une discussion entre deux savants à propos d'un problème dont elle cause aujourd'hui. Par exemple, qu'il disait une supposition qu'on étalerait par terre toutes les feuilles ramassées sur les arbres d'un hectare de chêne. Mais attention, hein, en s'arrangeant pour qu'il n'y ait pas un seul centimètre de dégarni. Eh bien, on obtiendrait, devinez quoi ? Un total de 8 hectares entiers couverts de feuilles.
Bon, c'est une histoire merveilleuse. Je ne vois toujours pas où vous voulez en venir.
Attendez. Laissez-moi terminer. Si on fait maintenant la même expérience, mais en prenant, cette fois-ci, toutes les aiguilles d'un hectare d'épicéa, qu'est-ce qu'on obtient ? Exactement le double ! 16 hectares entiers d'aiguilles sagement rangées, les unes à côté des autres. Renversant, non ? Non ? Ça prouve une chose, cette histoire. C'est que l'épicéa a une surface de feuilles, ou d'aiguilles, c'est la même chose. Double de celle d'un chêne du même âge. Je voudrais pas avoir l'air d'en tirer des conclusions, mais je serais pas étonné après ça d'apprendre qu'il ferait le double d'oxygène. Et leur donner que les feuilles, il n'y a pas de mystère. Ce n'est plus des moins que des usines à oxygène. Alors après, que voulez-vous que je vous dise, moi ? Quand j'entends des choses pareilles, je peux pas m'empêcher de piailler. Ah bah la pollution ! Vive les épicéas !
Il faut reconnaître que cet argument est impressionnant. Quelqu'un aurait-il par hasard une remarque à faire là-dessus ?
Ouais. Ouais, moi, madame. Moi, j'ai un truc à dire.
La parole est au hérisson.
Non, mais replanter des épicéas. Mais c'est bien une idée de parisien, ça.
Pardon.
Ah bah, les technocrates. Non, mais... Bon, ce qu'il faut, c'est faire le double d'oxygène. On est d'accord là-dessus?
Je crois que tout le monde est d'accord, oui.
Eh ben, moi, j'ai une idée bien mieux, et qui mettra tout le monde d'accord. On n'a qu'à planter des chênes, des charmes, là, comme vous dites. Tout comme par dans le passé. On a juste à en planter le double. Je vois pas où est le problème, hein.
Madame la présidente, s'il vous plaît, j'aimerais bien que quelqu'un explique à ce stupide animal où il trouve le terrain pour replanter tous ces arbres. Le double de la forêt actuelle, ce n'est pas rien tout de même.
Allons, vous avez entendu la question ?
Comment tu me parles, toi ? On va se chauffer les aiguilles après.
Restez à la barre.
Ouais. Ouais, j'ai compris, ouais, j'ai entendu. Le double, Ah si, j'ai une idée. On a qu'à reboiser les autoroutes. Vous voyez là, tous ces hectares et ces hectares d'autoroutes qui servent à rien, à part faire des hécatombes de petits hérissons. Eh ben, on a qu'à les reboiser.
Bah ouais, c'est bien ça, c'est une bonne idée.
Reboisons les autoroutes.
Reboisons les autoroutes.
Allez, on va y arriver.
J'ai vraiment entendu quelque chose de si stupide.
Votre suggestion sera jointe au dossier. Témoin suivant. La parole est à l'écureuil.
Madame, bonjour.
Bonjour. Alors, si ce que je lis dans le dossier de l'instruction est exact, vous êtes le président d'une association de consommateurs ?
C'est exact. La Société des Mangeurs de Cônes. Association sans but lucratif qui édite le mensuel Cœur Rongé. Nous comptons parmi nos adhérents bon nombre de célébrités. Le mulot, le campagnol roussâtre, le bec croisé, le piqué-pêche, le casse-noix...
Oui. Bon, ça suffit. Qu'est-ce que vous avez à nous dire exactement ?
Eh bien, Madame la Présidente, Messieurs les jurés, mes chers collègues, je suis venue demander un peu d'indulgence pour l'épicéa.
Ah, merci.
Certes, c'est tout à fait vrai qu'il commet bien des dégâts, qu'il tue la flore, qu'il chasse le monde, qu'il pollue les eaux... Mais d'un autre côté, il faut reconnaître qu'il nourrit une foule d'animaux avec ses graines succulentes contenues dans ses cônes. Pour ma part, je vous garantis que je suis bien contente de les trouver ces graines quand il gèle à pierre fendre et que toute autre nourriture a disparu. Tenez, pour vous dire, dans notre association, nous avons même un adhérent qui ne consomme pratiquement que cela. Au bout d'un nez à l'autre, plus fort encore, grâce à l'accusé, il réussit l'exploit de nourrir sa nichée sous la neige... En plein mois de janvier.
Ça, Périne Popette. Peut-on savoir comment il s'appelle, cet oiseau-là ?
C'est le bec croisé, madame la présidente.
Le bec croisé ? Attendez un peu. C'est un oiseau de montagne, ça. Vous savez aussi bien que moi que ce ne sont pas les épicéas de montagne qui sont mis en accusation ici. Ceux-là sont dans leur pays naturel et personne n'a rien à leur reprocher. Nous nous occupons uniquement aujourd'hui du cas des épicéas de plaine que l'homme a planté artificiellement. Par conséquent, les becs croisés n'y chantent pas en plaine, votre argument est considéré comme nul.
Tricheur.
Oh, admettons pour les becs croisés. Mais il reste les autres, madame la présidente.
L'accusé a-t-il quelque chose à ajouter ?
Oui, absolument. Puisque nous parlons des animaux que je protège, j'aimerais bien dire un mot des oiseaux, dont je suis précisément un grand défenseur.
Menteur !
Menteur !
Parfaitement, 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 je suis l'ami des oiseaux. Tenez, promenez-vous dans une jeune plantation d'épicéa et vous verrez, on y trouve des nids par dizaines de griffes, d'accenteurs, de merles, de fauvettes de toutes sortes, et même parfois d'engoulevents et de busards Saint-Martin. Alors après, quand on vient me dire que je ne protège pas les oiseaux, mais laissez-moi rire.
C'est tout à fait vrai ce que vous dites là, mais si mes renseignements sont exacts, je crois que votre protection est de courte durée. Au fur et à mesure que les petits épicéas grandissent, les oiseaux les abandonnent les uns après les autres.
Oh, c'est bien possible, hein. Il y a des grincheux partout, vous savez. Certains s'en vont parce que, soi-disant, ils ne peuvent plus supporter l'obscurité de mon sous-bois.
Des cocus, en fait.
S'il vous plaît, madame la truite, hein. Mais il y en a d'autres, par exemple, qui restent toute l'année. Tenez, la grive musicienne. Je vais même vous étonner. Je pourrais vous citer des espèces qui ne se sentent vraiment bien que chez moi. Par exemple, la mésange jupée. Ou la mésange noire. Ou encore, les deux petits roitelets. Si mignons, si gentils, si fragiles.
Vous avez raison. J'aperçois dans mon dossier une déclaration du syndicat des roitelets garantissant votre moralité. Et spécifiant que vous êtes de très loin son arbre préféré.
Merci les roitelets.
D'ailleurs, que l'on conseille, on serait dans la forêt quelques parcelles d'épicéas à l'usage des roitelets et des mésanges noires. Personnellement, je n'ai rien contre. Là où je ne marche plus, c'est quand on me parle d'enraisiner la moitié de la forêt française.
La moitié ?
La moitié.
Et vous me dites ça à moi ?
La moitié.
Comme si je pouvais quelque chose. Allez vous plaindre auprès des gens d'Office des forêts. Je n'ai jamais demandé d'être replanté partout, moi.
Oh, mais justement, nous y arrivons.
Vous avez demandé le ministère des animaux. Ne quittez pas, une opératrice va vous répondre. Ne quittez pas, une opératrice va vous répondre. Ne quittez pas, une opératrice va vous répondre. Ne quittez pas, une opératrice va peut-être vous répondre.
Eh bien, non, décidément, monsieur le ministre ne viendra pas. Je suis désolée, nous devions avoir un dernier témoin, il ne viendra pas. La séance est levée.
Attendez, attendez.
Ah, le voilà.
Bonjour.
C'est le ministre, c'est lui.
Ah, bonjour, bonjour monsieur.
Ah, bonjour monsieur le ministre.
Je suis ravi de vous rencontrer.
Ah, et moi de même.
Ah, cher monsieur, je suis vraiment enchantée de faire votre connaissance. Mes amis et moi allons enfin savoir. Allons enfin connaître le pourquoi de tous ces enracinements que vous nous imposez depuis des années. Pourquoi des épicéas et toujours des épicéas, plutôt que cette belle forêt d'essence mélangée que nous avions autrefois?
Eh bien, c'est une question de rendement, madame la présidente.
Je m'en doutais.
Que voulez-vous? L'épicéa est un arbre qui pousse vraiment très très vite comparé aux autres essences. En plus, je n'y peux rien, c'est comme ça. Il a un énorme succès commercial. Le bois des jeunes arbres est idéal pour la fabrication de la pâte à papier. Et je n'ai pas besoin de vous dire à quel point cette denrée est très demandée actuellement. Autre avantage de l'épicéa, son tronc est impeccablement droit. Le voilà donc tout désigné pour la fabrication des innombrables poteaux téléphoniques qui embellissent les routes françaises.
Oh, merci, merci.
Quand je vous aurais dit que le bois de l'accusé est également utilisé en masse dans toute l'industrie du bâtiment,
en masse,
bois de coffrage, menuiserie, charpente, vous comprendrez tout de suite que lorsque nous avons à reboiser une parcelle, nous sommes bougrement tentés d'y replanter des résineux. Peut-être voulez-vous des chiffres ? Alors en voici. Une forêt des Ardennes très belle, mais très pauvre, rapportait autrefois 35 francs par hectare et par an. Replantée en épicéa, elle rapporte aujourd'hui entre 700 et 800 francs par hectare et par an. Autrement dit, 20 fois plus d'argent. Alors, madame la présidente, on me demandait tout à l'heure les explications.
Regagnez vos places, s'il vous plaît, écartez-vous, laissez-le respirer.
Merci.
Voilà, non, merci. Ne me remerciez pas trop vite.
Alors, madame la présidente, je disais, vous demandiez tout à l'heure l'explication des enracinements. Et moi, je vous réponds, simple question de rendement.
Le rendement, mes pelotes, ils n'ont donc que ce mot à la bouche. Que voulez-vous qu'il nous fasse, le rendement, à nous autres habitants des grands bois? Tout ce que nous voyons, voulez-vous que je vous dise, c'est le beau gâchis que vous avez fait de notre cadre de vie. Cette forêt de cauchemar, monotone, insipide, sans fleurs ni arbustes, sans animaux ou presque, ces ruisseaux acidifiés, privés de leurs plantes et de leurs habitants. Cet alignement de troncs à rendre n'importe qui neurasthénique.
Moi, neurasthénique?
Oui, vous. On dirait que maintenant, vous vous êtes mis en tête de cultiver les arbres à l'américaine. Comme s'il s'agissait de vulgaire maïs.
Moi, un vulgaire maïs?
Ce n'est pas dans que j'y pense. C'est vrai ce qu'on raconte? Vous avez l'intention de désherber la forêt et de produits chimiques?
Quoi? Des produits chimiques?
Ah, mais il faut bien dégager les jeunes épicéas, madame la présidente. Enlever tous les arbres et les arbustes qui poussent à droite, à gauche et qui gênent.
Et on ne pouvait pas faire ça à la main?
Ah, le calcul a été fait. Cela revient moins cher dépend des défoliants à partir d'un hélicoptère.
Quoi?
On veut un hélicoptère? On nous empoisonne. On nous enfume, on nous gaz. C'est n'importe quoi.
On va le fumer. C'est toi qu'on va y aller. On va lui couper les racines. On va lui couper les gens. Viens par là, concume. Viens par là, concume.
Arrêtez. Non, c'est bon. Allez, non, allez. Non, mais laissez-moi. Laissez-moi. Non, mais... Hé hey. Arrêtez. Non, mais laissez-moi.
Eh bien. C'est à se demander si vous, les hommes, vous n'êtes pas tous devenus fous. En attendant, dès qu'elle se sera prononcée sur le sort de l'épicéa, je demande à la Cour suprême de prendre directement en charge la gestion des forêts. C'est devenu trop imprudent de laisser les hommes s'en charger plus longtemps. La séance est levée.
J'ai plaqué mon chêne comme un saligo. Mon copain le chêne, mon alter ego. On était du même bois. Un peu rustique, un peu brut, dont on fait n'importe quoi. Sauf naturellement des flûtes, j'ai maintenant des frênes, des arbres de juillet, tous de bonnes graines, de hautes futées. Mais toi tu manques à l'appel, ma vieille branche de campagne, mon seul arbre de Noël, mon mâle cocagne. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû m'éloigner, mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû le quitter des yeux.
Wow.
Est-ce qu'on l'a refait? Mais... Merci beaucoup, c'était les pédoncules égarés qui vous ont présenté le procès de l'épicéa sur les ondes du 93.3. On va, comme chaque jeudi, eh bien, se diriger vers des terres latines, puis les rapporteurs, DJ Selecta Seb, qui finira la soirée sur les ondes du 93.3. On vous remercie chaleureusement d'être venu sur le plateau et d'avoir joué le jeu du théâtre radiophonique. C'est la première fois aussi pour nous qu'on accueille ce genre de choses, donc ça nous fait très plaisir. Un petit mot de la fin, peut-être ?
Merci à vous, c'était une super expérience. Ouais, j'espère que vous avez tout compris. Et j'espère que vous vous sentiez dans la forêt avec les oiseaux et dans l'ambiance.
Et les grenouilles.
Et les truites.
On ne manquera pas donc de... de faucher les IPCA qu'on croisera du coup maintenant dans la forêt.
Et allez vous promener dans les forêts.
Ou faucher les ministres.
Naturels.
Pas de pitié pour les
ministres. Ça, c'est une activité campusarde, la fauche de ministres. Eh bien, vive les feuillus. Hein, ouais. Abat les résineux. Et
les charmes, les chênes.
Merci. Comme
dans le passé.
Et longue vie au syndicat animaux.
Syndicat unifié des herbivores sylvestres.
Syndicat unifié des herbivores sylvestres.
Syndicat.